Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée de formation organisée par l'Union juive française pour la paix. Et le sujet d'aujourd'hui est vaste et nous n'arriverons pas à le cerner, bien entendu, et j'espère que les débats vont être intéressants, que chacun pourra parler sans trop interrompre les autres dans le feu de l'action. Alors, c'est quoi un juif? Conditions juives, identité juive, judéité. C'est effectivement un programme énorme et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, c'est une question qui se pose à beaucoup. Alors, je vais d'abord passer la parole à Olivier Lecq-Laferrière, un bon quart d'heure, puis après, je passerai la parole à Daniel Levin, et puis ensuite, la parole sera à l'Assemblée. Merci. À toi, Olivier.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais faire une présentation un peu aride. Je pense qu'on va avoir deux interventions très différentes qui vont pouvoir nourrir des discussions ensuite. Donc, assez pauvre, sans doute pour vous. Est-ce qu'on peut partager un écran?
Oui, je vais te donner ça.
Donc, la question de savoir ce que c'est qu'être juif est... Elle se dédouble assez rapidement, en principe, entre d'une part la question de la définition d'être juif en relation au judaïsme comme une question religieuse, de culte, de foi, voilà, on peut le dire plein de manières, et d'un autre côté, ce qu'on a tendance à appeler la judéité ou les judéités, on en reparlera après. Qui serait le fait d'être juif et qui fera plus l'objet de notre réflexion aujourd'hui. On a tendance à distinguer graphiquement les deux quand on parle des juifs en mettant une minuscule quand on parle de quelqu'un en lien à la religion juive qui appartient, qui fait partie de la religion juive et une majuscule. Et là, je n'ai pas tout de suite écrit parce que c'est un peu plus difficile à dire tout de suite ce que ça veut dire qu'être juif avec une majuscule. C'est quelqu'un qui appartient à quoi? Et c'est là où il y a une série de difficultés sans doute à lancer. Alors, on peut dire comme ça qu'il y a classiquement, c'est toujours schématique hein, quand on fait ça, mais qu'il y a quatre approches possibles de la judéité, celle qui la réduirait au judaïsme et qui a longtemps été équivalente. Hein. Il faut quand même insister sur le fait que la distinction entre judaïsme et judéité, elle est progressive, plutôt récente, etc. On en reparlera. Il y a une définition tout simplement raciste de la judéité qui fait... Qui est né avec l'antisémitisme européen, qui fait de l'être juif, du fait d'être juif, hein, une appartenance raciale, biologique, héritée, etc. On a une conception nationaliste, voire ethno-nationaliste, qui est globalement portée par le sionisme. Hein, et donc, si je reviens sur mon étape d'avant, la plupart du temps, ici, vous trouverez que juif au sens de la judéité, avec une majuscule, c'est celui qui appartient au peuple juif ou à la nation juive. Et voilà, je vais essayer de suggérer que ce n'est pas forcément une bonne manière non plus d'aborder cette question. Et donc moi, je vais essayer de vous proposer plutôt cette quatrième approche que j'appelle matérialiste de la judéité qui fait du fait d'être juif une condition sociale, politique, historique liée à un processus de ce qu'on appelle aujourd'hui la racisation. Et donc je pense que, y compris dans l'histoire, peut-être on pourra en reparler après, ce qui était pensé... Sous la forme, avec le vocabulaire de la nation, peut être pensée autrement avec les outils de l'antiracisme politique d'aujourd'hui. Et que je crois que ça, que le travail qui a été fait largement sur d'autres groupes racisés, par d'autres groupes racisés, victimes du racisme sous une forme ou sous une autre, nous permet de mieux comprendre notre propre condition juive, si on veut le dire comme ça. Voilà sur le premier point. Et donc, ma thèse, c'est ça, c'est que la judéité, c'est ni nationalité, ni simplement une confession religieuse. Il y a un enjeu un peu sur ce deuxième plan, parce que c'est ce qu'on entend quand même très souvent, y compris à gauche, hein, quand il y a une attaque antisémite. On va dire, c'est pas bien d'attaquer les gens en raison de leur religion, c'est une question de laïcité, etc. Or, c'est pas le cas. On va pouvoir le dire assez vite. Ici, je pense que insister sur le fait que c'est pas une nationalité entre nous, je pense que ça sera plus facile. On voit tout de suite la difficulté. C'est plus compliqué de tracer le lien un peu complexe entre judéité et religion, parce que le lien historique existe évidemment. Il n'y aurait pas de judéité sans la pérennité et la durée du fait religieux juif, mais qui se réduit pas. Je vais passer un peu vite parce que je vais pas revenir sur ni le judaïsme lui-même. Je pense que Daniel y reviendra. La classification raciale nazie nous intéresse pas tellement non plus comme histoire. Par contre, très clairement, la condition juive contemporaine, elle est marquée par l'antisémitisme. On peut dire, hein, donc ça a été souvent dit comme ça, il y a une forme de communauté de mémoire et d'expérience en lien avec la persécution. De longue durée, des juifs et juives, et en particulier sa dimension exterminatrice sous le nazisme, qui fait partie de notre mémoire partagée. Le deuxième aspect alors, je sais pas comment le dire autrement, mais ouais, bon, j'y reviendrai après. Le deuxième aspect qui fait que je le veuille ou non, hein, ça va être un peu ça mon approche, c'est-à-dire que je le veuille ou non, je suis juif. Hein, ça, on a eu des discussions, par exemple, est-ce que est juif celui qui se dit juif? On peut faire quelques expériences de pensée, mais par exemple, moi, je pourrais dire que je ne suis pas juif. Il se trouve que en raison de mon ascendance, etc., d'une part, je vais être la cible des antisémites si les nazis reprennent du poil de la bête, comme ça semble bien parti, malheureusement. Et d'autre part, j'ai ce que l'État d'Israël appelle le droit au retour. Alors, avec mes positions politiques, peut-être que là, c'est un peu différent aujourd'hui, mais bon, globalement, un juif a le droit au retour, qu'il le veuille ou non. Hein, et donc, ça, c'est quelque chose qui. Je peux en faire des tas de choses différentes. Je peux trouver que c'est très bien. Je peux avoir ça comme plan de secours, comme beaucoup peut-être l'ont, une partie là. Je peux le rejeter en disant que j'en veux pas. C'est pas quelque chose que je choisis, avec lequel je peux subjectivement décider que ça n'existe pas. Voilà, je peux être dans le déni. Je peux faire comme si ça n'existait pas, mais ça existera. Et ce qui fait que, bah, voilà, on sait très bien, hein, si on est à côté de Palestiniens et de Palestiniennes dont les parents étaient sur place ou les grands-parents étaient sur place et qui n'ont pas le droit d'y retourner, bah, ça fait une différence de situation objective assez majeure. Parce que moi qui n'ai pas ou très peu de liens avec ce territoire-là, j'ai le droit d'y être simplement parce que juif et que eux qui en viennent n'ont pas le droit d'y retourner. Donc il y a un fait là. Et donc voilà la toute petite chose. Moi, c'est une toute petite chose que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est que aujourd'hui, on doit penser la judéité comme une condition une condition racisée, une condition raciale, si on veut, mais en le prenant vraiment au sens de l'approche critique de la race, hein. C'est évidemment pas une race biologique qu'on rejette, c'est une construction sociale historique, etc., qui pourrait prendre fin quand tu auras plus de racisme, quand tu auras plus d'antisémitisme. On pourra ne plus être juif, peut-être, si on n'appartient pas à la pratique et aux croyances religieuses. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est la cible de l'antisémitisme. Alors, il y a plein de contextes où, en particulier, si on est ashkénaze, si, comme moi, on a un prénom qui n'est pas marqué, voire un nom de famille qui n'est pas marqué, on a plein de contextes où on va avoir ce qu'on peut appeler un passing blanc, hein, c'est-à-dire où on ne va pas quotidiennement être ciblé comme juif si on n'a pas des signes manifestes de cette culture ou de cette religion. Je pense qu'il y en a d'autres qui insisteront beaucoup plus sur la culture. Mais ça n'empêche qu'il y a un moment ou un autre où cette question-là, elle peut ressortir, où on va se poser la question. C'est-à-dire, voilà, moi, il y a une blague antisémite autour de moi ou une allusion. Forcément, je vais me poser la question différemment de ce que j'en fais. Est-ce que je revendique ma judéité ou pas? À ce moment-là, bah, y compris là par rapport à la situation actuelle. Ou en général avec l'existence d'Israël, etc. Est-ce qu'on revendique notre judéité? Je pense qu'on a tous des parcours un peu différents là-dessus. Moi, je ne l'ai longtemps pas fait. Et puis, à un moment donné, j'ai jugé que c'était à la fois nécessaire et un peu inévitable. Et donc, voilà, d'assumer, de revendiquer publiquement cette judéité. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces deux faits objectifs qu'on ne choisit pas? C'est ça, il y a plein de variations là-dessus. Voilà. Donc là, il y a toute une pluralité de judéité de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on peut mettre un S, c'est-à-dire voilà, comment on se rapporte à ça. Deux mots, et après Daniel va aller sur de tout autre terrain, mais sur cette affaire que la judéité, ça serait une culture. La pluralité des Juifs dans le monde rend très difficile de revendiquer une culture commune, en fait. Voilà, entre les Juifs du Yémen, d'Éthiopie, d'Asie, de France, etc., les pratiques, les cultures, les références sont extrêmement différentes. Et on peut toujours parler du rattachement. Derrière aux traditions religieuses, mais y compris de ce côté-là, c'est assez faible. On peut faire une petite expérience de pensée, un peu caricaturale, mais quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie sans savoir qu'il était juif, en étant, par exemple, éduqué par des parents qui n'étaient pas les siens biologiquement, mais qui a effectivement pris soin de lui, etc. Voilà. Et qui finit par apprendre peut-être à 30 ans que ses deux parents étaient juifs. Est-ce qu'il est juif ou pas? Eh ben, du point de vue des antisémites et du point de vue de l'État d'Israël, il est juif. Et donc, à partir du moment où il le sait, il peut dire « je suis pas juif, je me considère pas juif », etc. Moi, je ne reproche rien aux gens qui le disent pas, etc. Il se trouve qu'objectivement, voilà, politiquement, socialement, il est catégorisé là-dedans. Hein. C'est ça le fait d'être racisé, c'est le fait que c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qu'on s'auto-attribue, c'est quelque chose qui nous est attribué de l'extérieur par les structures du racisme. Voilà, moi, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On peut le redire encore une dernière fois comme ça pour conclure sur une autre image. Hop. Est-ce que je peux partager autrement? Oui, nouveau partage. Voilà. Voilà, donc c'est une définition très sèche, très pauvre, très peu subjective, qui est exclusivement sociale, politique et historique. Mais je crois qu'on en a besoin dans si on veut comprendre quelque chose à ce qui se joue autour de ça.
Merci Olivier. Donc je vais passer la parole à... Tu as tenu le délai, parfait. Je vais passer la parole à Daniel. Je t'en prie, Daniel.
Bon, bah d'abord, bonjour à tous et merci d'être là pour cette discussion autour de la condition juive, de la judéité. Donc, on va répondre, on est en train de répondre à la question, qu'est-ce qu'un juif? Je devrais rajouter pour être maintenant, qu'est-ce qu'une juive aussi? Donc, Olivier vous a donné son éclairage. Et en fait, on s'est pas du tout concerté sur la façon de répondre à cette question. On aurait peut-être pu diviser la question en sous-questions et puis que chacun puisse y répondre. Mais en fait, on a préféré justement de faire chacun son éclairage à sa façon. Donc, je vais donner donc ma réponse. Alors, d'abord, il faudrait peut-être constater que les seuls qui sont véritablement obsédés par cette question, c'est-à-dire c'est une question juive, de savoir qu'est-ce qu'un juif, sont à la fois les antisémites, hein, les vrais, et en premier lieu les nazis, et puis les sionistes. Parce qu'il faut bien faire un tri dans cette inhumanité entre eux, alors eux, je mets des guillemets, entre eux, les ennemis à éliminer, et nous, les éternelles victimes potentielles ou non d'eux. Alors, comment trier le bon gré de l'ivraie? Là, quel critère? Alors, la religion? Ben non, la moitié des juifs ne pratiquent pas. La circoncision? Ben non, il y a des juifs non circoncis et des circoncis non juifs. Le nom de famille? Ça ne marche pas non plus. Il y a des Cohen pas juifs et des Durand juifs, ne serait-ce que par conversion. Mais pour les nazis et l'administration israélienne, il valait bien se donner un critère. Et c'est curieusement le même, avoir au moins dans son ascendance un des grands-parents juifs. On pourrait alors interroger ce critère. Comment savoir si véritablement le grand-parent est juif? Par un de ses grands-parents aussi? Un casse-tête pour cette administration qui dépend en grande partie du rabbinat israélien auquel est confié l'état civil du pays. Alors, on a écrit des milliers d'ouvrages à ce sujet. Pour ma part, j'ai une réponse très simple. Olivier l'a dévoilée, et qui va sûrement pas vous satisfaire, est juif celui qui se sent juif. Alors après, on peut discuter comment chacun, vous, moi, les amis, les ennemis, les religieux, les athées, définissent la judéité. Faut peut-être distinguer deux choses, c'est-à-dire que l'identité juive a deux aspects bien distincts. Comment on la définit soi-même, pour nous-mêmes, et comment les autres la définissent. C'est pour cela que la définition sartrienne, que je rappelle, le juif est un homme tenu pour juif par les non-juifs, c'est le regard d'autrui qui fait du juif un juif. Eh bien, cette définition, elle est insuffisante et partielle. Et les relations entre les deux aspects sont dialectiques. Ce que les autres pensent de la judéité intervient dans notre propre définition et réciproquement, sans compter que son contenu varie en fonction de notre histoire personnelle et de l'histoire avec un grand H. Alors, je vais commencer par dire d'où je viens, d'où je parle, même si mon parcours est sans doute très atypique. La question juive ne se pose même pas pour moi. Je n'ai jamais caché mon identité juive. Mes parents sont issus de familles ashkénazes venues de différents pays de l'Est européen. Famille très touchée évidemment par le génocide nazi. Je vais évoquer rapidement comme exemple la famille de ma mère pour ses réactions différentes à ce judéocide. Bien, ma mère l'aînée, après avoir eu une expérience malheureuse du mouvement sioniste, a travaillé comme bibliothécaire à l'Alliance israélite universelle. Donc, elle a été très intégrée à ce qu'on appelle la communauté juive. On va revenir sur le terme communauté après. Et son frère cadet, il est devenu ingénieur, il s'est marié avec une chrétienne en reniant complètement son identité juive. Et la sœur Benjamine a fait son alia dans les années 60 et est devenue une sioniste pure et dure jusqu'à ce jour. Donc, bien que mes parents étaient religieux, hein, j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai fréquenté l'école publique et je suis même devenu prof de lycée. Mais je me suis rapidement éloigné de la pratique religieuse, étant devenu agnostique. Engagé en mai 68 et après dans le mouvement révolutionnaire, je ne voyais aucune contradiction entre ma conception du judaïsme et ce mouvement. Il faut dire, sans doute influencé par les idées de mon père, j'ai toujours une lecture révolutionnaire de nos textes sacrés, en particulier de la Torah et de l'histoire juive. Alors on va peut-être en dire deux mots. Juif, c'est-à-dire Yahoud en hébreu, ces termes n'apparaissent que tardivement dans ces textes. Seulement la première fois dans le livre d'Esther, en parlant des Juifs de l'Empire perse menacés, déjà, d'extermination. Ces Juifs sont des exilés. Un Juif, c'est un être en exil. Et qui le reste? Ah, mais vous me direz, les sionistes ont raison. Les Juifs doivent retourner en Eretz Israël, car la condition exilique, qu'on appelle la galoute en hébreu, n'est pas normale, source de stigmatisation. Erreur, grave erreur. Bien sûr, Dieu lui-même a promis cette terre du Nil, le terme exact c'est le fleuve d'Égypte, du Nil à l'Euphrate, aux patriarches et à leur descendance. Mais cette promesse est conditionnelle, liée à une conduite morale exemplaire, sinon la terre vomira ses habitants. C'est inscrit dans le Shema Israël, la prière juive la plus importante. Et à la veille de Pessah, à la fête de Pessah, pardon, bien sûr, on souhaite le Shana Haba, Veillez le Rosh Hashanah, qui signifie, vous le savez, l'année prochaine à Jérusalem. Mais aucun juif religieux ne prend pour cela de billet pour Tel Aviv. Tout cela pour vous expliquer pourquoi, pendant près de 2000 ans, il n'y a eu aucun grand mouvement des masses juives en direction de la Palestine. Ce retour n'était envisagé que lors des événements eschatologiques, messianiques, ou alors toute la terre serait sainte, donc pas besoin de se déplacer. Résumons. L'an prochain à Jérusalem ne signifie que vivement que le Messie arrive. Indépendamment du fait que, bien sûr, il y a fort peu de chances que les Juifs de la diaspora soient les descendants des Hébreux de l'Antiquité. Il y a plus de chances que ce soient les habitants indigènes de la Palestine actuelle. Et même si c'était vrai, si chacun revendiquait la terre où vivaient ses ancêtres il y a 2000 ans, imaginez le bazar que ça serait. Maintenant, revenons au récit biblique pris à la lettre. Bien sûr, vous y lisez des horreurs, surtout lors de la conquête sanglante de Canaan par les Hébreux, avec le génocide de tous les peuplades idolâtres, ce que les sionistes prennent comme modèle. Mais cela finira mal. Les tribus se battent entre elles, le royaume se divise, les prophètes dénoncent les dérives des rois de Judée et d'Israël qui seront détruits. La conquête romaine somme le glas d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël. Le tournant se situe, selon la tradition, dans la relation d'un événement, réel ou supposé, peu importe, où Rabbi Yochanan ben Zakkaï, lors du siège de Jérusalem opposé aux justoboutistes des Zélotes, s'est rendu au général Vespasien, lui promettant qu'il deviendra empereur. Cette prédiction s'étant réalisée, Vespasien lui a demandé ce qu'il voulait en récompense. Il répondit: l'autorisation d'ouvrir une école pour étudier la Torah à Yavné. Donc fini l'attachement à la terre, ce sera l'attachement à la Torah, le ciment de l'identité juive jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la Haskalah, c'est-à-dire le mouvement des Lumières, où beaucoup de juifs ashkénazes vont s'éloigner progressivement de la religion, avec aussi l'émergence du sionisme politique et son succès relatif au siècle suivant. D'ailleurs, Léon Ashkenazi, dit Manitou, c'était son totem de scout, un philosophe français des années 60, expliquait: maintenant en Israël, le juif est devenu ou redevenu hébreu. Ce sionisme politique voudrait nous faire revenir au temps biblique, mais pourtant, on sait comment ces Hébreux ont fini. L'identité juive revendiquée ou supposée peut donc révéler différents aspects religieux, familial, culturel ou même politique. Politique, pour contrer par exemple le sionisme prétendant parler au nom de tous les Juifs, ou au contraire, pour se proclamer soutien inconditionnel à l'État israélien. Ces différents aspects pouvant se combiner, ce qui est mon cas personnel, alors il est d'autant plus problématique d'utiliser les expressions. Alors, quelles expressions? Le peuple juif. Question supplémentaire. C'est quoi un peuple? En quoi l'ensemble des Juifs constituerait-il, vu la diversité de cette identité juive? Alors, c'est pareil pour l'expression la communauté juive. Même questionnement. Bref, qu'ai-je de commun avec Netanyahou, à part peut-être, comme Meurice l'a rappelé, un petit bout de chair en moins? Je terminerai juste cette intervention, j'en ai plus pour longtemps, qui, je l'espère, ne vous a pas trop traumatisé par un rappel de ces deux citations que nous avons mises en exergue lors de notre pétition dénonçant le génocide en cours et que je revendique pleinement pour définir mon identité juive. Le monde tient sur trois piliers, la justice, la vérité et la paix. Ça, c'est dans les Pirkei Avot, hein, les paroles de nos pères. C'est un traité qui date du 2e ou 3e siècle après notre ère. Et la deuxième citation, c'est être juif, c'est être toujours du côté des opprimés et jamais du côté des oppresseurs. Ça, c'est de Marek Edelman, commandant second de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Voilà. Merci.
Merci, Daniel.
Est-ce que
Alors,
j'ai tenu les temps, non?
oh oui, ça a
Bon.
été court, parfait.
Merci.
Alors, maintenant, qui pose la première question? Qui se lance? Alors, soit vous pouvez aller dans le chat, soit vous levez la main. Pierre Stamboul, tu veux être le premier? D'accord. Ensuite, Lazen, je note. Tu remets le micro, Pierre.
Ouais, bonjour à tous et à tous. Très intéressant vos deux interventions. Moi, c'est justement sur la question peuple juif que je veux intervenir. Je pense que peuple juif, c'est un terme religieux, mais comme tu l'as dit, Daniel, si on entend par peuple une unité d'origine, de culture, de langue, de cuisine, de territoire, c'est une construction historique de dire que... Un juif irakien, un juif polonais appartiennent au même peuple. Et justement, si on dit en même temps qu'un peuple, c'est une langue, il y avait des langues juives, il y avait le ladino pour les séfarades, le yiddish pour les ashkénazes, le judéo-arabe pour les juifs du Maghreb. Et justement, le sionisme a veillé à essayer de tuer toutes ces langues, c'est-à-dire de tuer ce qu'il y avait comme peuple, pour essayer d'en façonner, d'en construire un nouveau. Alors je rappelle que quand on a écrit collectivement le livre Paroles juives contre le racisme, on a commencé par ça, qu'est-ce qu'être juif? Il y a eu 10 définitions, il y a eu la définition sartrienne, la définition hitlérienne, la définition religieuse ou sioniste. Et après, ça m'a amusé de voir que la quasi-totalité des membres de l'UJFP, au lieu de répondre à la question, répondait à la question, pourquoi à un certain moment j'ai éprouvé le besoin de dire que j'étais juif? Moi, j'ai essayé de donner, comme ancien prof de maths, une définition rationnelle. C'est au départ plusieurs peuples ayant une communauté de destin liée à la religion. J'arrive pas à dire quelque chose de plus. Et je terminerai juste en disant qu'au musée juif d'Amsterdam, il y a justement cette question à l'entrée du musée, qu'est-ce qu'être juif? Et il donne trois définitions, le musée est tenu par des sionistes, la religion, un attachement à Israël et un lien avec ce qu'ils appellent la Shoah. Donc moi j'en ai 1 sur 3, je crois qu'il y a pas mal de membres de l'UJFP qui en ont 0 sur 3. Voilà.
Merci Pierre. Lazen.
Bonsoir tout le monde. Moi, c'est juste
Bonsoir.
une question. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui a nécessité l'utilité de ce débat ce soir. C'est intéressant, bien évidemment, et je vous remercie les deux intervenants. Mais est-ce qu'il y a eu un besoin une discussion, une controverse sur le fait qu'il est nécessaire et utile d'aborder ce sujet-là sous forme de formation, que j'approuve d'ailleurs. C'est juste comprendre sur ce point-là. Et question subsidiaire, la notion de peuple juif, est-ce qu'on a une idée sur le fait de cette... Quand est-ce que la notion de peuple juif est apparue? Je ne sais pas si on peut situer ça, parce que initialement, j'imagine que on parlait pas de peuple juif. Initialement, on parlait plutôt de fils d'Israël, dans le Coran, du Ben Israël. Mais la notion de peuple juif, j'ai l'impression que c'est tout récent. Merci.
Tu veux répondre d'abord ou je prends la question de... Alors, qui est 83 46 24?
C'est Chloé, c'est moi.
Chloé, d'accord. Pose ta question et puis après, Olivier interviendra.
Très bien. Du coup, ma question avait à voir avec plutôt l'intervention d'Olivier, même si ça se recoupe un petit peu. Dans l'intervention d'Olivier, il a été dit que notamment un juif est donc une personne qui a le droit d'être israélienne. J'ai cru savoir, même si j'en suis pas sûre, donc c'est pour ça que c'est plutôt une question, que les conditions du droit en retour en Israël ont évolué au fil du temps et que ça n'a pas toujours été le fait d'avoir un seul grand-parent juif, peu importe lequel, peu importe où, et que du coup ça s'est aussi, comment dire, ça a aussi évolué en fonction, j'imagine, de la politique et de l'importance aussi d'avoir des juifs qui rejoignent la terre de Palestine de manière à faire un rapport de force démographique important. Donc voilà, je voulais juste avoir des précisions là-dessus. Est-ce que j'ai raison ou si je me trompe? Donc c'est voilà, c'est ma question.
Merci, Olivier.
Oui, pourquoi on a fait ce débat? Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs fois que, à l'occasion d'autres discussions, cette question était posée à un moment ou à un autre et que on n'avait pas vraiment le temps et la disponibilité pour essayer d'y répondre, et qu'il y a quand même assez souvent une difficulté. Enfin, voilà. Sur cette question-là, est-ce que c'est qu'une religion, et du coup, si on n'est pas croyant, on n'est pas juif. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça. Ça valait le coup d'en discuter. Ce que tu dis, Chloé, est tout à fait vrai. Et Daniel l'a dit, en fait, les gens qui. La question qui est juif, avoir une réponse qui permet d'avoir des critères pour dire si quelqu'un est juif ou pas, des critères objectifs, matériels, scientifiques, généalogiques, etc. Elle intéresse deux catégories de personnes. Elle intéresse les antisémites et les sionistes. C'est une question administrative que pour les deux. Et finalement, elle n'est pas très intéressante pour nous. Enfin, je veux dire, moi, j'ai essayé de donner les critères, mais c'est les critères d'assignation raciale, puisque c'est comme ça que moi, je le prends. Ils sont variables, ils sont fluctuants historiquement selon les endroits, selon les lieux, etc. Et donc c'est logique qu'il y ait du flou. Et si moi on me demande est-ce qu'il faut les deux parents, est-ce que la mère ça suffit, est-ce qu'il faut trois quatre grands-parents, etc. C'est pas mon problème en fait. Enfin, j'ai pas me, ça m'intéresse pas d'avoir à définir qui est juif ou pas. Par contre, ça m'intéresse de savoir comment eux le voient. Alors, pour répondre après encore à ta question, du coup, le fait que ça puisse bouger, ça fait y compris qu'il peut y avoir une assignation juive incertaine pour certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, y compris à l'UJFP, ils ne savent pas vraiment s'ils sont juifs ou pas. Et ce n'est pas grave, moi, je ne leur demande pas de savoir. Bon, par exemple, si quelqu'un a eu un de ses grands-parents, si c'était son père, etc., et qu'il n'y avait pas la pratique ou les traditions religieuses, etc., il y a des gens, voilà, j'en connais dans la salle d'ailleurs, avec qui on en discute. Bon, moi, ça me pose aucun problème que ce que. Voilà, ça peut poser des problèmes aux gens eux-mêmes, mais je veux dire, c'est pas. Voilà. Donc, oui, comme c'est un fait social historique, c'est pas une définition. Administrative qui intéresse que des gens avec qui finalement on n'est pas vraiment d'accord.
Juste pour préciser ma question, évidemment, c'est pas du tout ça que je remettais en question.
Non,
C'est
c'était
plutôt
bien. C'était pas en contre.
du point de vue sioniste. Je trouve ça intéressant de voir que ça a pu évoluer. Et du coup, ma question derrière, c'était, est-ce que quelqu'un dans cette assemblée sait comment ça a évolué en termes de droit au retour, qui avait le droit de faire son aliyah dans les années 50, et est-ce que ça a changé au fur et à mesure des décennies pour arriver maintenant à cette règle de un grand-parent sur quatre, qui n'était, je crois, mais encore une fois, je suis pas sûre, pas la règle il y a 30 ans, 40 ans. Voilà, c'était plutôt ça en fait derrière ma question.
Donc, sont inscrits. Il y avait aussi la notion de peuple juif, mais c'est peut-être Daniel qui reviendra dessus. Il y a d'autres inscrits. Il y a Adrien, Xavier, et puis après toi, Daniel.
Oui, mais je pense que je peux répondre. Ça va peut-être, ça va compléter ce que vient de
D'accord.
dire Olivier. Je pense que, alors d'abord, il y avait deux questions. D'abord, la question, alors c'est pas dans l'ordre chronologique, peu importe. La question, pourquoi ce débat maintenant? Je pense que c'est quand même important. Parce que cette question-là, elle est absolument vampirisée par la propagande sioniste. C'est-à-dire que pour la propagande sioniste, il n'y a aucun problème. Être juif, c'est soutenir Israël, c'est juif, c'est israélien, c'est pareil, etc. Donc ça, c'est fondamental, je pense. Qu'on dise, mais non, juif, la notion de juif, c'est pas ça, c'est complètement autre chose, les identités sont diverses, etc. Ce qu'on discute actuellement, justement, c'est du militantisme antisioniste juif, pur, je pense. Après, la question de Pierre sur peuple, alors. Sur le peuple. Alors, ça dépend ce qu'on entend par peuple, justement. Quand, dans la notion de peuple juif, il y a un double questionnement. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Bah, là, c'est le débat actuel. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Si on prend la définition administrative d'un peuple, par exemple, on dit que la justice en France, elle est prise au nom du peuple français. C'est une définition, encore une fois, administrative. Après, il peut y avoir d'autres définitions, mais il faut peut-être s'entendre là-dessus. Moi, j'appartiens pas au peuple juif administrativement, j'appartiens au peuple français. Je suis citoyen français. Par contre, si on dit un peuple, c'est une communauté, c'est un groupe humain qui a quelque chose en commun. Alors, à ce moment-là, on peut parler du peuple des collectionneurs de camembert. Bon, ça c'est autre chose. Et parler de communauté juive, c'est pareil, hein. Alors, le problème de peuple, c'est que qui dit peuple, attention, dit nation, un peuple, peut-être qu'il a le droit à un territoire, mais une nation, peut-être un État, et ça, c'est un autre problème. Hein, d'accord? Voilà mes deux réponses.
Merci Daniel. Adrien, c'est à toi.
Oui, bonsoir, merci à tous. Je mets la caméra puisque Dominique a demandé à mettre un visage sur les prénoms. Donc au moins quand je parle. Non, merci à vous pour ces présentations. J'ai trouvé le parallèle très frappant par Daniel entre les critères de judéité d'après les sionistes et d'après les nazis. Je trouve ça toujours un peu. Ça donne un peu le vertige de faire ces parallèles, mais ils sont effectivement pertinents. En fait, il y avait un point que je voulais soulever parce que ça se dégage beaucoup de ce qui vient d'être dit. C'est en fait la domination d'une vision finalement très centrée, enfin très européenne, enfin eurocentrée, on va dire, enfin en tout cas une vision très européenne et contemporaine. Moi, je m'interroge sur ce que c'est effectivement d'être juif dans l'absolu. Alors, je sens, enfin, moi-même, je ne suis pas juif, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais du coup, voilà, on se pose la question ce que c'est que d'être juif. Est-ce qu'on peut sortir, enfin, est-ce qu'il est possible de se poser cette question-là en sortant de la domination d'une vision très européenne, très contemporaine? Parce qu'être juif aujourd'hui, c'est probablement pas la même chose qu'il y a 100 ans ou 1000 ans ou il y a 2000 ans. Et ça peut paraître un peu ridicule de se dire, on se pose la question à un horizon de 2000 ans, mais en même temps, il y a des choses. Enfin, je veux dire, la vision de la judéité aujourd'hui, elle est conditionnée par des revendications qui s'appuient sur sur des écrits de 3000 ans, donc en tout cas sur une tradition de 3000 ans. Donc forcément, je me pose cette question-là aussi. Donc, ça veut dire quoi être juif en dehors de la vision européenne, en dehors de la vision contemporaine? Est-ce que la notion même de judéité existait avant les persécutions européennes? Puisque finalement, comme l'a dit Olivier, finalement, la judéité dans sa définition est définie en creux par les persécutions et les discriminations et les persécutions contre les juifs. Et puis, un petit clin d'œil sur la notion de peuple juif. Daniel a rappelé le sens figuré, voire asymptotique, de l'expression l'an prochain à Jérusalem, qui a fini par être finalement une revendication territoriale. Et en fait, la question qui avait été posée sur la notion de peuple élu, de peuple juif, moi, ça a fait écho avec la question du peuple élu, parce que quand on dit peuple élu, finalement, à l'époque où je ne suis pas expert, et là je vais dans le judaïsme plus que dans la judéité, mais de ce que je comprends, cette notion de peuple élu, elle existait déjà bien avant la destruction du temple et l'ère, on va dire, moderne du judaïsme. Quand je dis moderne, c'est donc après la destruction du temple le talmudisme, etc. Mais elle était à l'époque une notion figurative, finalement, puisque le prosélytisme était encore à l'époque un moyen d'expansion du judaïsme. Donc finalement, notion de peuple, à partir de quand elle s'est crispée sur effectivement des notions ethniques, est-ce que c'est le propre du judaïsme européen ou est-ce que ça va au-delà des frontières? Voilà, c'était très très long de ma part, je suis désolé, mais j'ai toutes ces questions-là à vous poser. Merci.
Est-ce que je prends d'autres... Merci beaucoup. Est-ce que je prends d'autres questions ou Olivier et Daniel voulaient intervenir maintenant? Bon, je prends d'autres questions. Xavier.
Oui, bonsoir et merci pour
Bonsoir.
cette formation. Moi, ma question est très très lapidaire. C'était justement dans le chat, on parle de Shlomo Sand, donc qui a écrit, je crois, Comment j'ai cessé d'être juif. Et bon, donc qu'est-ce que, enfin, alors j'ai le livre à la maison, je l'ai pas encore lu, mais je veux dire quel est le propos du livre en fait, d'une certaine manière, puisque j'ai vu après dans des recherches bibliographiques que d'autres auteurs disaient on ne peut pas cesser d'être juif, quoi. On peut pas cesser d'être juif. Donc est-ce que c'est simplement de la part de Shlomo Sand justement, la reprise d'une position, on va dire, très intéressante, matérialiste, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, si on pouvait éclairer un petit peu les choses là-dessus. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Jacqueline. Faut que tu remettes le son.
Oui, j'ai remis le son, oui. Bonsoir, mais merci pour cette idée de rencontre et cette présentation vraiment intéressante. Je vais essayer de ne pas être trop brouillonne, parce que moi, bon, à ma connaissance, je ne suis pas juive, mais depuis que j'ai une réflexion un peu adulte, je me demande qu'est-ce que c'est qu'être juif. Donc, cette soirée m'intéressait d'autant plus. Et je dois dire que pour l'instant, ça n'est pas encore entièrement clair dans me.
C'est clair pour personne.
Voilà, oui, je sais. Je sais parce que chaque fois que j'ai posé la question depuis des lustres, étant donné mon grand âge, je n'ai jamais eu la même réponse exactement. Il se trouve que j'ai deux petits-enfants reconnus comme juifs parce que leur mère est juive et que leur grand-mère maternelle est juive, mais le père et le grand-père ne le sont pas. Donc, il y a priorité à la mère. Alors, je sais que c'est parce que c'est la mère qui accouche et que donc là, on est à peu près sûr, tandis qu'on n'est pas sûr, c'est ce que j'ai compris en tout cas de cette du fait qu'il faut que ce soit par la mère qu'on est reconnu comme juif. Et puis, moi, il me semble que Il y a eu une sorte de définition de la judéité toujours à travers les attaques, les condamnations. À ma connaissance, ça a commencé avec la religion catholique qui arrivait après la religion juive et qui a persécuté les juifs à divers degrés parce qu'ils déclaraient que c'était les juifs qui avaient tué Jésus. Puis après, il y a eu la création de l'islam et maintenant, c'est l'islam qui est désigné comme attaquant les juifs et les condamnant. Alors après ça, on arrive à qu'est-ce que c'est qu'être juif par rapport à l'État d'Israël tel qu'il est devenu. L'État d'Israël, d'abord, il y a 20% de non-juifs et ensuite, il ne représente pas tout le reste des juifs dans le monde. Donc, il y a des confusions finalement de tous les côtés Par contre, les protestants qui ont réagi au catholicisme, eux, sont très proches des juifs. Enfin, moi, j'habite à Uzès, donc dans un fief partiellement protestant, et les discussions avec eux sont très parfois difficiles par rapport à Israël, étant donné que les protestants sont très attachés à l'Ancien Testament, donc à la Torah, et par ailleurs ont subi également des persécutions de la part des catholiques assez sévères. Voilà, donc moi, toutes ces réflexions font que je n'ai pas encore entièrement, même si ça s'éclaircit un peu, de réponse totale à qu'est-ce qu'être juif. Merci.
Je crois que tu n'en auras jamais, mais bon, c'est pas grave.
Non, on n'en meurt pas.
Je prends encore une question, Alain de Vailly, et après je redonne la parole à Olivier puis à Daniel.
Oui, j'ai l'observation que disons, le monde chrétien, le monde chrétien, anciennement chrétien, a pris parti pour l'État d'Israël actuellement dans tout ce qui se produit, y compris tous les excès. Et je pense donc que éliminer, que évacuer la religion n'est pas une bonne manière d'aborder le sujet. Être juif, c'est une chose. Et être perçu comme juif par les autres, c'est autre chose. Donc il y a les aspects négatifs, évidemment, de l'époque hitlérienne, mais il y a les aspects positifs, entre guillemets, du monde chrétien à l'égard du monde juif, disons de l'État d'Israël, mais considéré comme juif. Et on est obligé de tenir compte, je crois, de ce qui est religieux. Parce que la laïcité française, notamment, a pris parti assez nettement en faveur de l'État d'Israël et avec pas mal de rejet des musulmans. Donc la question religieuse, je crois, ne doit pas être évacuée. Et j'ai une deuxième remarque à faire, c'est quand Michel Siboni défend, disons, une laïcité, disons, elle a parlé de l'éducation dans les écoles israéliennes et ça m'a fait prendre conscience d'un principe très général, c'est le fait que les écoles primaires forment les cultures. Et je pense que cette question-là doit être examinée aussi. Une culture, c'est quelque chose qui, dans beaucoup, beaucoup de cas, est formé par les premiers enseignements que reçoivent les enfants. Alors, je regrette, j'avais invité une amie qui est juive, mais qui est très versée dans la psychologie, très évoluée. Je lui avais proposé de participer ce soir, mais apparemment elle n'est pas là. Et ce genre de sujet-là, qui consiste à aller beaucoup plus en profondeur que toutes les surfaces de nos relations habituelles telles que les médias nous les servent, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup, Alain. Daniel, tu veux répondre avant que Sylvie pose sa question et puis peut-être
Ouais,
Olivier
alors.
après?
Oui, alors je vais essayer de répondre à... J'ai essayé, hein, ça ne va pas être... Je vais répondre sûrement partiellement et peut-être pas très satisfaisant pour tout le monde. Alors il y a d'abord les critères sur la loi du retour, pour retourner en Israël. J'ai entendu dire effectivement qu'il faut qu'un des grands-parents soit juif. Je ne suis pas sûr absolument que ce critère, c'est un critère absolu, qu'il n'y en a pas eu d'autres. En tout cas, pour moi, la question ne se pose pas. Moi, mais j'ai l'acte de mariage juif de mes parents, là, qu'on appelle la Ketouba. Et avec la Ketouba, pas de problème. Je peux retourner en Eretz Israël sans problème. Après, je ne sais pas. Je sais qu'il y a, en fin de compte, l'état civil en Israël, c'est aux mains des religieux, du rabbinat. Ça, c'est à la suite de la création de l'état d'Israël. Enfin, c'est un deal entre Ben Gurion et les religieux qui étaient au départ opposés à l'État juif, et puis qui finalement, la plupart ont accepté cet État, moyennant le fait qu'ils s'occupent de s'occuper de l'État civil, et puis de ces fameux critères. Mais je ne suis pas du tout sûr que. Alors, par exemple, il y a beaucoup de juifs, quand les juifs, entre guillemets, russes, sont émigrés en Israël, je ne suis pas sûr que tous ces critères ont été vraiment respectés. Alors, sur Shlomo Sand, maintenant sur Shlomo Sand, et en fait, ces bouquins sont toujours passionnants, et puis on apprend beaucoup de choses, surtout son livre Comment le peuple juif a été inventé. Il a commis un autre livre, Comment j'ai cessé d'être juif, mais alors moi, ça m'a choqué, évidemment, et pas mal aussi de camarades de l'UGFP, ce titre-là, mais je pense que si on lit, c'est un titre assez provocateur, et si on lit vraiment ce livre, je pense pas, on peut pas considérer Shlomo Sand comme ayant cessé vraiment d'être juif. D'autres questions alors sur l'islam, en fait, quand on parle des religions, l'islam, on a parlé du protestantisme, des chrétiens, etc. On ne peut pas essentialiser, je veux dire, il y a alors effectivement, il y a des terroristes islamiques, des fondamentalistes, mais bon, il y a aussi des gens qui pratiquent l'islam et qui sont très bien. Donc, et puis l'islam, c'est une des trois grandes religions du livre. Bref, il y a parmi les musulmans, il y a une diversité de façons de voir la religion, de rapport avec la religion. Pour les chrétiens, c'est pareil. Il y a aussi des chrétiens fondamentalistes, et puis d'extrême droite. Et puis, ouais, on sait bien en France, hein. Et puis il y a des chrétiens favorables il y a des chrétiens révolutionnaires favorables à la théologie de la révolution. Donc on ne peut pas essentialiser. Je prends les protestants par exemple. Vous avez des protestants effectivement qu'on travaille par exemple avec la CIMADE, hein, au niveau de l'antiracisme et puis des aides aux migrants. La CIMADE qui est d'origine protestante. Et puis vous avez les évangélistes américains qui sont aussi protestants mais qui soutiennent Israël. Donc voilà, très très difficile de parler globalement des chrétiens et des musulmans comme ça. Et puis, effectivement, l'importance de l'école, hein, de l'éducation dans tout ça. Donc, il y a pas mal de militants de l'UGAP qui travaillent justement sur ces questions d'éducation, sur les manuels scolaires, que ce soit en France ou en Israël, ou même en Palestine. Et l'éducation est importante. Et en Israël, c'est le lavage de cerveau, effectivement, sioniste. Dès la maternelle, effectivement, là-bas, les Israéliens sont éduqués dans le suprémacisme et le racisme. Voilà, j'ai. Voilà.
Est-ce que tu veux intervenir, Olivier, sur les questions?
Oui, je veux bien. Je suis désolé, je pense que je vais avoir zappé une partie des questions un peu par fatigue. Donc, n'hésitez pas à reposer si on n'a pas répondu ni l'un ni l'autre à certains aspects. Ça va être un peu des petits points dispersés, parce qu'y compris, je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire des choses sur d'autres moments. Je peux commencer par ça, sur le droit au retour en Israël. Ma présentation était fautive par simplisme.
Moi aussi.
Parce qu'en fait, il y a une distinction entre le droit au retour et le fait d'être juif, en fait. Le droit au retour est plus large. C'est-à-dire que le fait d'avoir un seul parent, un seul grand-parent donne droit au retour, mais presque comme une forme de regroupement familial ou d'héritage acquis, mais ne donne pas le statut d'être juif. C'est-à-dire que pour que un de ses quatre grands-parents soit juif, il faut que lui-même soit fils d'une mère juive, enfant d'une mère juive, fils ou fille d'une mère juive. Donc voilà, il y a une distinction entre que j'ai. Voilà. Deuxième petite remarque. En fait, je pense que c'est une erreur, selon ce que je pense être une bonne approche de ces questions, de chercher une définition fixe. On l'a un peu dit tous les deux, c'est-à-dire une définition fixe, ça serait une définition administrative, enfermante et en fait un peu racialisante et dangereuse. À partir du moment où on est dans le domaine du social, de l'historique, du politique ou de la culture, il n'y en a pas. Et alors là, j'exprime un petit désaccord avec ce que plusieurs ont dit. C'est normal, c'est pas grave. Moi, je n'ai même pas envie d'accepter de donner la définition d'un juif par son engagement pour la justice, parce que ça voudrait dire que on exclut, on dit que ce ne sont pas des juifs ceux qui se comportent mal ou que que les juifs sionistes sont pas juifs, etc. Je pense que c'est extrêmement dangereux en fait d'entrer dans ce départage-là. Voilà, que il y a des juifs que je trouve mauvais, il y a des juifs que je trouve méchants, il y en a que je trouve gentils, il y en a que je trouve bons, etc. Et je trouve que le fait de vouloir définir la judéité par un critère moral, voilà, que du point de vue religieux, on dise le bon juif doit se comporter comme ça, je le respecte, c'est pas mon problème, c'est normal, c'est la fonction. C'est une des fonctions du religieux, mais de le dire nous d'un point de vue de voilà de ce que c'est un petit peu mon avis un petit peu. Il y a une question sur les tests ADN. À mon avis, c'est une question un peu intéressante il y a dans le chat hein,
Oui, ce que je regarde.
qui fleurissent là beaucoup ces tests ADN où on va nous faire savoir de quel quoi en fait on. En fait, il y a des tas de questions. Déjà, sachez que si vous envoyez vos données, là, vous allez l'envoyer à des entreprises privées américaines dont on ne sait pas comment elles vont exploiter ensuite votre patrimoine génétique. Donc déjà, ce n'est pas anodin. Et ensuite, il y a toute une question à avoir sur à quel groupe de référence on compare les données qu'on a. Il peut y avoir un peu une circularité comme ça, c'est-à-dire qui je compare pour savoir si je suis juif de où, quoi. Et voilà, quelles sont la base qu'on prend, et ça, c'est pas questionné. Donc, comme c'est des marchands, eux, ils vont nous dire, voilà la réponse, vous avez 12% de juifs d'Éthiopie, etc. Vous avez peut-être vu compris le poste de Rima Hassan là-dessus, qui a fait ce test et qui a dit de manière provocatrice du coup, comme elle avait tant de pourcents de juifs, elle avait le droit au retour, puisqu'on lui refusait comme palestinienne. Bon, assez drôle comme manière de faire. Mais par contre, le fait que tout le monde aille faire ses tests, moi, je trouve ça assez inquiétant. Et ça marque le retour d'un racialisme biologique. qui est un peu inquiétant, y compris, voilà. Alors, c'est une réponse, hein, je veux dire, il y a des fois où c'est des réponses. Dans les enjeux, pour moi, pour revenir sur la question de pourquoi cette formation et pourquoi moi je me suis porté volontaire pour en faire un petit bout, le fait de penser la condition juive comme une condition racisée, ça fait partie de ce qui permet de rejeter la séparation entre le racisme et l'antisémitisme, qui est en fait une hiérarchisation. Voilà, c'est-à-dire, voilà, nous subissons une forme spécifique de racisme, comme chaque forme spécifique de racisme a ses spécificités, mais à partir du moment où on pense que la judéité est visée par un racisme, ça change un petit peu cette séparation-là. Et je vous le dis comme ça, je trouve que le discours de la complexité autour de ce que c'est qu'être juif, etc., a le risque de nourrir un petit peu cette séparation-là sur la spécificité de l'antisémitisme, etc. Sur l'histoire, du coup, alors c'est pas ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais c'est un peu mon dada du moment d'essayer de revenir sur un petit peu les phases de distinction du moment justement où il y a eu transformation entre l'hostilité religieuse, quoi, au judaïsme, donc l'anti-judaïsme chrétien dont il a été question et qui est la matrice d'un peu tout le reste. Et le moment de bascule, et à la fin du XVe siècle, quand on a la loi de pureté du sang dans la péninsule ibérique, on a ce truc où il y a à partir du fait religieux, c'est pour ça que je fais une nuance avec ce qui a été dit sur la séparation du religieux et du reste, à partir du fait religieux, on a une transformation des gens en...
Résume.
Là, du coup, en groupe racial, en gros, alors c'est pas dit comme ça, évidemment, le vocabulaire n'existe pas à ce moment-là, mais à partir du moment où on dit que la conversion va pas suffire ou va être toujours douteuse parce que le fait d'avoir une ascendance juive ou une ascendance musulmane, et d'ailleurs, hein, vous voyez que les deux sont simultanés, c'est-à-dire que vraisemblablement, la première forme de racisation, le premier développement du racisme à proprement parler, il vise les juifs et les musulmans en tant que à partir de groupes religieux. Donc il y a cette histoire-là. Et pareil, hein, si on dit enfin, la question religieuse, l'islamophobie aujourd'hui se développe comme un racisme et pas comme une hostilité religieuse. L'hostilité religieuse qui existe, elle est une partie du racisme, elle est une couverture du racisme. C'est rarement pour des raisons de doctrine sur la Trinité ou l'unicité divine que l'islam est critiqué en France. Il n'y a pas de critique d'ailleurs, c'est pas une critique, c'est une fois. Bon, j'ai peut-être été déjà très long, alors je vais m'arrêter là-dessus. Sinon, j'aurais des choses à dire sur Shlomo Sand. Moi, je suis un petit peu moins enthousiaste que la plupart de mes camarades sur Shlomo Sand, mais c'est pas grave.
Y a une question du chat avant de reprendre les questions. Est-ce qu'on sait le pourcentage, c'est Emeline, de juifs russes, enfin, ou de russes réfugiés en Israël? Ça, je
Oui, c'était
sais.
pas. Pardon, j'ai plus beaucoup de voix. C'était pas du tout une question fondamentale. C'est parce que plusieurs personnes ont mentionné que. En fait, quelqu'un a dit qu'il y avait 21% de non-juifs en Israël, ce à quoi plusieurs personnes ont dit attention, en fait, il y en a plus, puisqu'il y en a qui ont été considérés comme juifs au moment de
Excellent.
l'immigration, etc. Et juste par curiosité, j'ai demandé, voilà, si quelqu'un a l'info, c'est cool, sinon, c'est
Je ne
pas grave.
sais
Et
pas.
désolée
Ouais.
pour ma voix.
Non, c'est pas grave. Alors, qui répond? Adrien répond, il y a beaucoup plus de 20% de non-juifs en Israël, puisque cela correspond à la part des Israéliens arabes, druzes, chrétiens et musulmans. Il y a beaucoup de, entre guillemets, juifs du point de vue sioniste. Donc, c'est un grand-père juif, etc. Bon, on n'a pas de réponse à cette question. Je vais passer la parole à Sylvie.
Ouais. Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié l'approche matérialiste d'Olivier. Je trouve que je suis très sensible à ça, et notamment au fait que la condition juive, elle est marquée par le fait d'appartenir à une communauté de mémoire et d'expérience. Je crois que l'histoire, elle est très importante dans... dans le fait de se déclarer comme juif. Moi, si je le suis, je me déclare juif, c'est parce que, par respect pour ma mère, son histoire, mes grands-parents, ils sont morts à Auschwitz. Et donc, nous, dans ma famille, on a été marqués par ça, par cette histoire, qui, comment dire, non pas qui nous a définis, mais qui fait qu'on était très sensible à tout ce qui était autour, du fait d'être juif et, de l'antisémitisme. Donc, je crois qu'il y a un facteur très important qui est, son histoire familiale à soi. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, on est impacté par cette histoire, pour, se dire juif ou pas. Maintenant, aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est pour moi un acte militant de dire que je suis juive. Parce que, ça me permet d'aller dans les manifestations, pour la Palestine. En disant pas en mon nom. Et du coup, c'est un acte militant pour moi qui est vraiment fort, quoi. Et je trouve ça important d'avoir fait cette soirée-là, parce que ça me permet d'avoir aussi des éléments de réponse à moi et d'être plus clair pour dire après aux autres, c'est quoi être juif si on me pose la question. Ça me permet aussi d'avoir des éléments de réponse. J'ai pris des notes, clac, 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 j'ai écrit, pour pouvoir aussi en parler à mes enfants. Qui eux aussi se déclarent, se revendiquent comme juifs, alors que, autrement, on s'en fout un peu, en fait, chez nous, d'être juifs ou pas, parce qu'on n'a absolument rien du tout, au niveau alimentaire ou autre, mais on a quand même des mots, on a des chansons, on a des expressions, on a une menorah, alors qu'on n'est pas du tout croyant, mais on a des choses qui marquent, qui sont des traceurs de notre histoire familiale et qui restent, et pour moi, je trouve que c'est important. Voilà. Mais si, j'ai une question, pardon. Olivier, tu as dit qu'il y avait une approche raciste, c'était l'antisémitisme européen. Et j'étais étonnée que tu dises européen. Pourquoi est-ce que tu dis européen? Il est qu'européen ou quoi? Merci.
Peut-être que tu peux répondre là-dessus, Olivier, avant que je donne la parole à Adrien puis à Daniel.
Oui, alors là, je peux être très long là-dessus.
On a du temps encore.
Je crois que c'est vraiment important, y compris là dans ce qui se joue dans les interprétations du 7 octobre, dans les thèses sur le nouvel antisémitisme, etc. L'antisémitisme, comme forme de racisme qui vise les Juifs, c'est clairement une création européenne. C'est vraiment là que ça a pris. Qui est des formes d'hostilité aux Juifs, des formes de concurrence religieuse entre des musulmans et des Juifs, etc. Ça existe partout, des concurrences entre des groupes humains, etc. Bon. Ça n'a pas du tout pris la forme d'une idéologie structurée. Implicite d'abord et de plus en plus explicite, comme ça a eu lieu en Europe, avec cette dimension qui était sous-jacente, mais qui était déjà là, exterminatrice, à laquelle elle a fini par aboutir. Hein, je veux dire qu'à son origine, dans la notion de peuple d'Élysée, hein, je le dis parfois de manière très résumée, mais en logique pure, là, pas en phénomène historique, social, etc., mais si les Juifs sont déicides, c'est à la fois qu'ils sont le mal absolu et qu'ils sont pas convertibles, quoi. Hein. Je veux dire, le mal absolu, on va pas réussir à le convaincre, on va que pouvoir l'éliminer. Donc il y a déjà là-dedans une matrice qui va être reprise et réinterprétée, etc. Aujourd'hui, enfin, pas que d'aujourd'hui, mais évidemment, les notions circulent, les éléments circulent. Le protocole des sages de Sion est repris partout dans le monde, y compris au Maghreb, etc. Ok. Y compris, il peut y avoir la mobilisation d'éléments comme ça ici ou là. Ça ne veut pas du tout dire que ça a le même sens dans n'importe quel contexte, en fait. C'est-à-dire que, y compris quand il va y avoir une utilisation par ceux qui sont autour d'Israël et qui s'opposent à son pouvoir, à ses massacres, etc., d'éléments qui sont issus de l'antisémitisme européen, ça ne veut pas du tout dire que ça a le même sens. C'est-à-dire que Bah, en contexte de guerre, en contexte d'opposition massive, on va avoir toujours tendance à essentialiser l'adversaire. Je veux dire, même en 14, on dit les Boches, d'accord? Et y a une construction de l'identité de l'autre comme figée, comme négative, etc. On va puiser là-dedans toutes les références disponibles dans la culture. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on puisse le plaquer là-dessus. Donc, ce que je veux dire, ce dont je me suis rendu compte, si j'ai encore 2 minutes pour expliquer un truc, c'est un peu difficile à articuler. C'est qu'il y a des gens, notamment Tal Brutman, qui était un historien important sur Auschwitz, etc., qui se revendique de gauche et qui critiquait la notion de nouvel antisémitisme. Hein, il refusait cette idée que l'antisémitisme d'aujourd'hui était congénitalement porté par les Arabes et les musulmans, etc. Ça, c'est une notion d'extrême droite. Comme il est de gauche, il la refuse, etc. Mais en fait, l'usage qu'il fait de ça, c'est de dire que l'hostilité qu'il y a aux Juifs et à Israël, puisqu'il est quand même dans ce glissement permanent aujourd'hui, c'est le même antisémitisme que l'antisémitisme européen qui a mené au nazisme. Et donc, ça l'amène en fait à dire que le Hamas et les autres groupes, factions palestiniennes, leur hostilité à l'État d'Israël est génocidaire. Et donc, c'est ce qui finalement les amène à glisser aussi sur l'idée que en refusant la distinction entre l'antisémitisme européen dans son contexte social et historique, avec les formes d'hostilité qu'il y a avec Israël, ou de formes qui peut parfois glisser, etc., on arrive à ces glissements et à ces confusions-là. Donc voilà, je pense que c'est important de resituer que des formes d'hostilité à des groupes sociaux, même quand elles reprennent le même vocabulaire parfois, même quand elles reprennent des éléments de la culture, n'ont pas le même sens selon le contexte. C'était pour ça que j'insiste là-dessus.
Merci, Olivier. Donc, sont inscrits Adrien, Daniel, Pierre Stamboul et Jean-Pierre. Alors, Adrien, tu as déjà pris la parole, donc cours. Vas-y.
Oui, non, non, mais en fait, j'avais levé la main avant ces interventions et c'était pour revenir sur la question du centrage sur un point de vue européen, en fait, la question de la judéité et de la définition de la judéité en creux par les contempteurs des Juifs, en fait. Donc Olivier vient de développer un petit peu et voilà, c'était plus pour ça. En fait, moi, je me posais la question, est-ce que cette question de la judéité, qui est aussi difficile à adresser, à définir de notre point de vue européen, est-ce qu'elle est aussi cruciale et aussi complexe si on sort du cadre européen?
Il y a la question du DIMI que posait justement Emeline. On pourra peut-être y revenir. Daniel.
Ouais, moi je voulais revenir sur peut-être quelque chose qui a mal été compris ou que j'ai mal exprimé. Quant à la fin de mon intervention, j'ai parlé du contenu de ma judéité avec ces valeurs juives. Alors, on peut mettre des guillemets sur ces valeurs juives, est-ce qu'elles sont vraiment juives? Vérité, justice, paix, et puis toujours du côté des opprimés. C'est mon interprétation de ma judéité. Hein. Ça ne veut pas dire que je l'impose à tout le monde, en particulier aux camarades de l'UGFP. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas comme vrais juifs ceux qui ne veulent pas en entendre parler de ces valeurs. Hein. Voilà, c'est juste cette petite mise au point.
D'accord. Pierre.
Ouais, sur deux points. La question des non-juifs en Israël, c'est vrai que d'une part, une part importante des soviétiques qui sont arrivés en Israël avaient très très peu de rapport avec le judaïsme, parfois un lointain ancêtre, et que le résultat, ça a été des usines de porc et de cheval en Israël, des sites d'extrême droite, voire des sites nazis, voilà, tout simplement, et puis toute une partie de la mafia soviétique qui est partie là-bas. Donc je dis, Israël a accepté très volontairement des gens qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme et qui sont considérés comme juifs en Israël parce qu'ils en ont besoin dans leur obsession démographique. Il y a même un cas encore plus fou, c'est le cas d'un groupe d'Indiens quechua qui ont été convertis, ils venaient de bord du lac Titicaca, amenés directement à la colonie de Gush Etzion, ils parlent quechua et quelques mots d'espagnol et d'hébreu religieux, ils sont citoyens israéliens, ils sont considérés comme juifs et ils font l'armée. Donc savoir qu'Israël avait comme but de prendre n'importe qui considéré comme juif dans l'obsession démographique face aux Palestiniens. Après, j'ai quand même un petit problème sur la question religieuse. Parce que les fondateurs du sionisme n'étaient pas croyants. On prête à Ben Gurion la phrase Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. Probablement la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants. Et moi, quand je suis interviewé, c'est les journalistes, c'est vous qui êtes de confession juive. Je crois qu'il est important de dire justement qu'il y a tout un judaïsme athée, une judéité athée plus exactement, qui s'est développée, que, bon, il n'y a pas que le boom, il y a eu tous les révolutionnaires là. On peut penser peut-être que c'est une forme de transposition du messianisme. C'est possible, je n'en sais rien. Enfin, moi, je suis issu clairement d'une famille, ma mère ne disait pas les chrétiens, mais les pogromistes, et elle ne disait pas les rabbins, elle disait les collabos. Et on avait une espèce de dynamique anti-religieuse qui a existé chez les Juifs, et je trouve justement important dans l'UJFP qu'on a toutes les histoires, toutes les mémoires, et que c'est bien, et que ça se complète, mais il ne faut pas oublier celle-là. Hein, moi, je pense que la dimension des Juifs révolutionnaires, leur histoire, parce qu'elle est quand même extrêmement importante, elle ne doit jamais être oubliée.
Merci. Avant de passer la parole à Jean-Pierre, je vais lire quelque chose qu'a écrit Emeline dans le chat, qui disait, je voudrais juste vous rappeler une phrase importante qu'avait dit Georges Gumbel et qui reprend pas mal les problématiques exposées ce soir. Israël nous a arrachés à notre anonymat si chèrement acquis. Donc ça fait partie aussi de cette discussion. Jean-Pierre. Leçon.
Oui,
Voilà.
bonsoir.
Bonsoir.
Je suis aussi parti de cette phrase de Sartre quand il dit que c'est le regard des non-juifs qui définit le juif et non l'histoire, la religion ou le territoire. Quelqu'un a dit que c'était insuffisant. Moi, je trouve ça, cette définition, tout à fait atroce, parce qu'elle ampute les juifs, je ne dis pas le peuple juif, les juifs de leur histoire, de leur tradition, de leur histoire. Ça englobe beaucoup de choses. Voilà. Alors moi, comment moi, athée, dont l'athéisme est bâti sur un socle matérialiste fort, j'en suis revenu à revendiquer ma judéité par quel cheminement je l'ai fait. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a été déterminant dans mon cheminement. C'est la lecture de l'ouvrage de Léon Poliakov, L'histoire de l'antisémitisme, qui est bien plus qu'une histoire de l'antisémitisme, mais l'histoire des Juifs au fil des siècles dans la diaspora. La notion de diaspora, pour moi, a été très, très importante dans mon cheminement, car je l'oppose à l'État ethnocentré qui a complètement appauvri ce qu'ont été les Juifs dans la diaspora et les caractéristiques universalistes de cette diaspora. Elle a montré, cette diaspora, au fil des siècles, une remarquable capacité d'adaptation et d'intégration dans les différentes cultures et espaces où elle s'est développée, tout en conservant son identité propre. Cette dynamique a donné naissance à une véritable esthétique de la diaspora, caractérisée par sa richesse et sa diversité, par la création de langues, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le ladino, le yiddish, qui est un emprunt à diverses langues d'Europe centrale, d'Europe orientale. D'autre part, j'ai été marqué par l'interaction entre les communautés juives et leur société d'accueil, qui a conduit à un enrichissement culturel réciproque, les Juifs ayant adopté des éléments des cultures locales tout en y apportant leur propre contribution et créant ainsi une mosaïque culturelle unique. J'ouvrirai une parenthèse rapide sur l'histoire peu connue de cette communauté juive installée à Kaifeng au 9 et 10e siècle et arrivée là par la route de la soie, qui s'est intégrée au point d'être autorisée par l'empereur à passer les examens mandarinaux. Bon, je pense que les Juifs ont pu, comment dire, c'est un exemple criant qu'ils ont donné de leur capacité à se créoliser par ces différentes adaptations dans les espaces où ils ont été accueillis, où ils se sont développés, où ils ont tissé des liens. Voilà, pour moi, c'est cet ensemble qui, avant la création de l'État d'Israël, a constitué l'universalisme juif qui est aujourd'hui abusivement revendiqué par les défenseurs réactionnaires du sionisme. D'autre part, c'est pour moi alors je me revendique non seulement comme juif athée, mais aussi diasporiste. Je tiens à cette notion de diaspora parce que elle s'oppose, elle vient en contradiction avec cet état, avec l'état autocentré. Et puis d'autre part, c'est un moyen important de montrer notre solidarité avec le peuple palestinien, en montrant que il y a des juifs de par le monde qui se désolidarisent complètement de l'État d'Israël et de son entreprise criminelle. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Olivier?
Oui, quelques remarques du coup sur le centrage sur l'Europe, puisqu'effectivement ça fait partie des choses auxquelles on n'avait pas vraiment répondu de la définition de la judéité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un enjeu de définition de la judéité à partir du moment où elle se distingue de la judaïté, du judaïsme, quoi, du fait religieux. Et donc ailleurs, pendant la plupart du temps, être juif, c'était appartenir à la religion juive. On se convertissait, on n'était plus juif, etc. Enfin, même en Europe, il y a eu des conversions dans tous les sens. On pouvait devenir juif, ne plus devenir juif, etc. Voilà. Il y a un double mouvement. La naissance de l'antisémitisme à proprement parler. Donc, on peut discuter l'histoire, mais voilà, moi, je pense que c'est la loi de pureté du sang qui fait un tournant important. On peut dire que c'est plus tard, peu importe. En tout cas, il y a un moment où, en fait, même converti, tu restes juif pour l'autre. Voilà. Donc, moi, je suis moins critique de l'approche de Sartre, comme vous l'aurez compris, que certains camarades ici, mais ça fait partie de notre diversité. Voilà. Deuxièmement, après, il y a les lumières juives, hein, où les juifs eux-mêmes essayent de s'autodéfinir en indépendance du lien avec la religion, voilà, avec le vocabulaire qu'ils ont à cette époque-là, etc. Et donc, De manière donc c'est un peu à ce moment-là, hein, on peut dire que c'est quand même globalement en Europe que se définit une judéité de l'extérieur par l'antisémitisme et de l'intérieur par les lumières juives que se définit une judéité distincte du judaïsme. Et c'est donc là aussi, hein, voilà, c'est à la fois historiquement et géographiquement situé cette distinction-là. Après, aujourd'hui, ce double mouvement de sécularisation des juifs et d'antisémitisme, c'est mondial. Donc, c'est plus centré sur l'Europe, mais dans sa naissance, c'est européen. Je ne sais pas si ça a été clair. Il y avait une question sur le statut d'IMI. Pour dire très vite, le statut d'IMI, c'est un statut dans les zones dominées par l'islam. Qui a un statut à la fois de protégé et d'inférieur. Voilà, si on dit en deux mots, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que c'est un statut de protégé qui reconnaît aux chrétiens et aux juifs en particulier, à quelques autres, aux zoroastres, etc. Enfin, bon, le droit de pratiquer leur culte, de s'auto-administrer en partie, etc. On n'est pas du tout dans le cas des États-nations qui vont se créer après sur le modèle duquel Israël va vouloir se fonder aussi. Hein, on est sur des sociétés qui, pour le coup, peuvent admettre ce qu'on dirait aujourd'hui, des formes de pluriculturalité, des formes de plurinationalité, etc. Et donc, voilà. Et en même temps, c'est un statut d'inférieur, il ne faut pas non plus le magnifier. C'est un statut qui a permis aux Juifs de vivre sans être opprimés, exterminés, sans, enfin, voilà, même si de temps en temps il y avait quelques spoliations, mais c'était les jeux politiques et économiques plus qu'une oppression spécifique. Et donc, ce statut, voilà, il a rien à voir avec ce qu'était l'antisémitisme européen. C'est ça que la distinction à faire, sans l'enjoliver, mais on n'est pas dans un régime globalement, hein, dans le monde, on n'est pas dans un régime d'égalité des droits à peu près nulle part. Je veux dire, on a des sociétés par ordre en France, avec la noblesse, etc. Enfin, donc voilà, il y a des inégalités juridiques, etc. Petite remarque sur la phrase de George Gumpel, qui est très belle et que voilà, mais Georges, que j'ai connu, qui venait à Saint-Étienne à chaque fois qu'on lui demandait, etc., faisait partie de ceux qui considéraient que l'antisémitisme était très largement derrière nous. Et donc, quand il dit que Israël nous a arrachés à notre anonymat, c'est-à-dire que c'est l'État d'Israël qui, pour le coup, nous met comme nous remet comme juifs et nous impose mes faces à notre judéité. Bah voilà, ça s'est quand même fait bien avant. C'est-à-dire que la dynamique assimilationniste qu'il y avait en Europe, elle n'a pas été interrompue par le sionisme d'abord. Voilà, elle a été interrompue par l'antisémitisme. Des gens qui ne se voyaient plus juifs et qui allaient vraisemblablement, selon leur propre cheminement, leur propre évolution, arrêter d'être juifs, ne pas transmettre la judéité à leurs enfants, elle allait, etc. Après, l'autre sens, elle est que, c'est ce que disait tout à l'heure la camarade, excusez-moi, j'ai mangé son nom, mais c'était très beau son intervention, du 44, c'est que
Irving.
ça nous oblige un peu, hein, le sionisme là, et aujourd'hui encore plus, on voit qu'il y a tout un truc, ça nous oblige à nous revendiquer d'une autre manière encore. C'est-à-dire que là, ça ne veut pas dire qu'on oblige tout le monde, et ça ne veut pas dire, quand je dis ça nous oblige, c'est comme le disait Daniel, ça, c'est une obligation intime, ce n'est pas une obligation que j'adresse à tout le monde, mais on peut se sentir appelé à se revendiquer de sa judéité pour exprimer ce pas en notre nom, quoi. Vas-y, Emeline, parce que j'ai mal compris manifestement, donc je t'en prie.
Leçon, Emeline, leçon.
Oui, déjà que j'ai pas de voix, si en plus je mets pas le son, ça va être compliqué. Je sais pas si vous m'entendez malgré tout.
Si.
Je pense que Daniel pourra encore mieux certainement expliquer la pensée de Georges, parce que tu l'as beaucoup plus connu que moi. Je pense que Georges, ce qu'il avait voulu dire, pour moi, la façon dont je l'avais comprise, c'est qu'après des siècles d'oppression qui ont culminé avec la Shoah,
et que les Juifs, malgré tout, avaient réussi à, enfin, après, à quelque part gagner une espèce de droit d'être simplement des citoyens, et que le sionisme a ravivé le fait qu'on ne peut pas se permettre, enfin, on ne peut pas se permettre. Il est compliqué quand on est juif aujourd'hui de se taire et de ne pas militer, par exemple, en tant que juif, étant donné ce qu'est le sionisme et ce qu'il est devenu. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, et je ne sais pas si c'est ça, Daniel, mais justement, je pense que l'antisémitisme fait partie, quand il dit si chèrement acquis, c'est justement en référence à l'histoire antisémite européenne. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'avais comprise. Mais je ne sais pas si je suis claire, et je ne sais pas si c'est ça, Daniel pourra confirmer ou infirmer.
Là, je peux répondre. Ouais, de toute manière, c'est ce qu'a dit aussi Olivier. Moi, quand est-ce que je me suis impliqué dans le GFP? C'est parce que je pensais, dans les années 90, que en regardant à la télévision une patrouille commune sur la ligne verte entre Israéliens et Palestiniens, je me suis dit, bah, ça y est, ils patrouillent ensemble long la ligne verte, c'est bon, c'est la paix. Et puis après, quand j'ai vu, bah non, lors de la deuxième intifada, que c'était reparti comme en 14,
Ah oui, ils sont
bah,
sortis.
c'est là, je me suis dit, bah non, là, faut s'investir, faut faire quelque chose en tant que juif. Donc, c'est ça. Par contre, pour Georges, Georges, il a pas, c'est pas quelqu'un qui minimisait l'antisémitisme, puisque pratiquement à chaque intervention, il rappelait qu'il était partie civile au procès Barbie. Voilà.
Oui, Olivier.
Oui, évidemment, son histoire fait qu'il ne peut pas minimiser la force de l'antisémitisme, mais dire son engagement très valeureux et très sincère contre l'islamophobie lui a fait dire, comme à beaucoup d'autres, que ça avait remplacé. Voilà, c'est pas grave, c'est pas le... Bref.
Y a-t-il d'autres questions? Ah, il y a une question dans le chat à laquelle je pense qu'on
Ah,
va
on peut
répondre.
répondre à cette affaire sur diaspora et peuple
Voilà, c'est
juif.
ça que je voulais
C'est
dire. Oui,
une question qui est intéressante, qui revient
oui.
souvent,
Oui.
qui n'est pas facile en fait. Je veux dire que est-ce qu'on peut, comme l'a fait Jean-Pierre, se revendiquer d'un diasporisme sans reconnaître l'existence d'un peuple juif? Bon, c'est des questions de vocabulaire. Effectivement, si on veut définir la diaspora comme la dispersion d'un peuple partout dans le monde, on se retrouve là-dessus. Mais je ne crois pas du tout que ça soit ça qui soit exprimé. Au contraire, c'est une forme. Moi, par exemple, je dis essentiellement diasporique pour essayer de dire ça. Alors, ça, c'est des mots un peu abstraits pour dire ça, mais c'est pour dire que c'est pas un accident, c'est pas un truc temporaire ou ni négatif ni qui vient. Faut pas le prendre comme dispersion au sens de il y avait une unité initiale qui s'est dispersée. Faut le prendre comme un état de dispersion et qu'on accepte, qu'on valorise, qu'on regrette pas, qui s'inscrit pas dans une nostalgie. Ni dans un projet quoi de réunification. Voilà, le terme du Bund était pas mal aussi par rapport à ça, hein, qui était pas forcément diasporique, mais qui était, ouais, je sais pas comment vous le dites-vous, mais enfin le lycéisme,
Deutschheit.
lycéité,
Deutschheit.
voilà, qui était de dire on est chez nous là où on est et on est partout chez nous là où on est sans avoir à se référer à un centre ni de manière nostalgique ni comme projet. Voilà, je pense que c'est ça et que on peut le dire d'une manière ou d'une autre et qu'effectivement si on le dit en un seul mot il y a malentendu. Si on dit juste une diaspora on laisse entendre que voilà, qu'on est un peuple dispersé, mais si on le met dans un contexte, je crois que c'est pas ambigu ni très dangereux, en fait.
Si je peux rajouter, comme disait Amnon Ras Krakotsin, tout le monde est en exil. Hein. Le monde entier est en exil. Donc c'est sous cette forme-là que on peut se dire diasporique en exil.
On est en exil de la justice.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Oui, qui dit oui?
Christian.
Ah, pardon, vas-y.
Oui, quelques petits points en écoutant cet échange entre nous. Je pense très très fortement à Maurice Rachfus, qui a découvert sa judéité ou sa judaïcité, ou non, même pas judéité, à partir du moment où il a vu que ses parents étaient arrêtés pendant la rafle du Veldiv et que depuis ce jour-là, il ne les a plus revus. Et il a eu un parcours très compliqué, très douloureux. Et il a toujours dit qu'être juif, ça ne lui disait rien. Il se sentait juif pour autant qu'il était persécuté. Et qu'il était palestinien parce que les Palestiniens étaient persécutés. Il a écrit notamment Les Juifs dans la collaboration, Une terre promise, point d'interrogation, où il a été très très féroce avec l'Union générale des Israélites de France qui ont collaboré avec l'occupant nazi pendant l'occupation. Il y a une chose que je voudrais faire ressortir, c'est ça tient aux institutions israéliennes. Qui n'ont pas de constitution. Il n'y a pas de constitution en Israël. Justement, en accord avec Ben Gourion et le rabbinat, il a laissé donc les affaires de l'état civil en Israël au rabbinat et pas de constitution, ce qui permet en corollaire qu'il n'y ait pas de citoyenneté, de nationalité israélienne. Et quand on lit ça dans notre entourage qu'il n'y a pas de nationalité israélienne, ça surprend tout le monde. Il y a des ethno-nationalités. Il y a la nationalité juive. Et c'est là que on peut penser à cette idée qu'Israël a fait ressortir les juifs de leur anonymat. C'est que ça oblige les juifs à se dire, à se démarquer par rapport à est-ce que je fais partie d'une nation ou pas? Il y a des nationalités, il y a la nationalité juive, il y a la nationalité palestinienne, nationalité druze, bédouine, tcherkesse, etc. Il paraît qu'il y en a 98 des nationalités en Israël. Bref, tout ça pour dire que ça oblige le sionisme, finalement, il brouille encore plus les cartes qu'elles n'étaient jusqu'à présent. Voilà. Alors, c'est peut-être confus ce que je dis là, mais voilà.
Tu peux développer, merci. Oui, alors vas-y, Pierre.
Juste pour répondre à Christian d'abord, non, il y a citoyenneté israélienne, il n'y a pas de nationalité palestinienne, il y a nationalité juive. Donc sur le débat sur Shlomo Sand, quand il dit comment j'ai cessé d'être juif, c'est cette nationalité me donne des privilèges que je refuse, c'est ça qu'il entendait. Mais non, il n'y a pas de nationalité, il y a une nationalité arabe, il y a une nationalité druze, il y a une nationalité tcherkesse. Il n'y a pas palestinien. Moi, je voulais revenir sur la question de l'islamophobie qui avait été citée, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, à mon avis, sur la question de l'antisémitisme. C'est la déclaration de Netanyahou en 2015 au Congrès sioniste mondial, où il a dit Hitler ne voulait pas tuer les Juifs. C'est le grand mufti de Jérusalem, Hajj Al-Amin, qui lui a soufflé cette idée. Alors, en dehors du fait, bon, que c'est une déclaration violemment révisionniste et négationniste, elle a un sens profond et qui est en liaison avec notre débat. C'est-à-dire, pour Netanyahou, l'antisémitisme, ce n'est pas l'Europe et les chrétiens, l'antisémitisme, c'est les Arabes et les musulmans. Et quelque part, quand on dit l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme, il ne l'a pas remplacé complètement. Bien évidemment, l'antisémitisme existe toujours, mais comme étant le ciment de toutes les idéologies d'exclusion et de discrimination en Europe, oui, l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme avec la bénédiction totale du sionisme. Mais c'est cette espèce d'argumentation de Netanyahou, c'est la façon de faire passer les juifs du côté des puissants et du côté des dominants contre les autres.
Est-ce que tu peux développer ta dernière idée que je ne retrouve plus, Olivier? Oui.
Oui, enfin, je
Par
pense que c'est
rapport.
un peu compliqué cette articulation. C'est une
C'est.
discussion qu'on peut d'ailleurs reprendre en l'approfondissant entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Je suis d'accord avec ce que dit Pierre dans le fait que l'islamophobie, c'est la forme actuelle dominante de l'idéologie raciste. Voilà, c'est la forme actuelle du point de vue idéologique. Déjà, elle a une fonction un peu particulière parce que la réalité du racisme aujourd'hui touche beaucoup plus les Noirs en tant que Noirs que n'importe quelle autre catégorie. Quand vous regardez matériellement, vous allez regarder l'Observatoire des inégalités. Il y a un article récent, quantitatif, très intéressant de Paletta sur les écarts de salaire. C'est manifeste. Je veux dire, l'écart est énorme. Et donc, en fait, y compris le fait que la négrophobie étant tellement admise qu'elle n'a même pas besoin d'être justifiée, alors que l'islamophobie, c'est un combat encore. Et donc, il y a un danger, je crois aussi, que moi, je fais partie du collectif contre l'islamophobie, je pense que c'est très important de mener ce combat, c'est pas pour dire, mais il y a un risque aussi à focaliser là-dessus, en fait, à tomber dans le discours de l'offensive idéologique du pouvoir en oubliant les autres formes. Ça, c'est le premier point. Que homologiquement, que du coup, l'islamophobie ait pris la place de ce qu'était l'antisémitisme comme le discours de la race, je suis d'accord. Il n'y a pas de. Par contre, que ça ait fait que l'antisémitisme aujourd'hui ne soit plus structurel, ne soit plus structurant, ne soit plus que résiduel, marginal, latent, dormant, ça, je pense que c'est faux et que c'est sous-estimé. Par exemple, la place que l'antisémitisme a dans l'imaginaire complotiste, qui est extrêmement présent en fait, qui partage beaucoup plus que que les formes les plus celles qu'on ridiculise, hein, qui est beaucoup plus largement présent. Et en fait, la réponse antisémite au capitalisme, à la domination abstraite du capitalisme, elle est toujours là et elle risque d'être là encore longtemps tant qu'on n'aura pas abattu le capitalisme, en fait. Je veux dire que l'islamophobie ne peut pas avoir le même rôle dans la lecture du capitalisme que ce qu'a eu l'antisémitisme. Voilà. Quand on ne comprend pas le capitalisme comme un système, on en a une lecture complotiste et le réceptacle disponible par l'histoire et la culture à ce complotisme, c'est toujours à l'arrivée les Juifs. Si on creuse à chaque fois, même quand les Juifs ne sont pas nommés, derrière toute forme de complotisme, au bout du bout du bout du bout, il y a les Juifs. Et donc, voilà, je crois que ça prend pas la forme d'une. Évidemment, on n'a pas une forme de persécution des Juifs comme il y a eu dans l'histoire. On n'a pas aujourd'hui une idéologie. Génocidaire, ni même d'expulsion, etc. Mais très profondément dans la culture et dans la société, il y a une structure antisémite et complotiste qui est toujours présente et qui fait qu'on ne peut pas lui attribuer un statut marginal ou résiduel.
Tout à fait. Il y a d'autres questions? D'autres points de vue? Alors, que pensez-vous de l'idée que l'impérialisme britannique a manipulé les Juifs européens pour imposer le colonisationnisme en Palestine? Le colonialiste, pas le, oui, le colonisé, le, non, le colonisateur. Ben, je peux répondre à cette question ou...
Oui, je laisse répondre les spécialistes du sionisme là.
Tout à fait. Ça, il a manipulé parce que Balfour était un évangélique, il était antisémite. Donc ça l'intéressait de voir les Juifs partir en Palestine. Et d'ailleurs, il a fait en 1905, quand il était pardon, Premier ministre, il a fait une loi appuyée par Herzl qui était venu le voir. Pour interdire l'émigration en Grande-Bretagne des Juifs en provenance d'Europe de l'Est notamment. Donc c'est en 1905 aidé et soutenu par Herzl, que Balfour a fait, donc bien avant la déclaration Balfour de 1917, cette loi interdisant aux Juifs de venir en Grande-Bretagne pour qu'ils puissent plutôt aller, comme le souhaitait Herzl, en Palestine. Et c'était en tant qu'antisémite qu'il disait cela. Et sa déclaration Balfour a été d'ailleurs, pas contredite, mais le seul ministre juif Montagu du gouvernement où Balfour était également ministre, mais c'était pas lui qui était le premier ministre, c'était Montagu, il s'est opposé à l'antisémitisme du gouvernement dans lequel il était. Voilà en gros. Daniel.
Ouais, je pourrais rajouter quelque chose. Oui, Béatrice, ce que tu dis là, c'est vrai. Et que je voulais rajouter, c'était que finalement, la déclaration de Balfour, c'était pas une pression des masses juives. C'est en fin de compte, c'est une demi-douzaine de représentants du mouvement sioniste qui ont intrigué pour cela. Alors, il y avait un calcul aussi de la part des Britanniques. C'est que en 1917, il y avait la révolution russe qui grondait, bien sûr. Je ne sais plus à l'époque exacte de la déclaration de Balfour où exactement où la révolution en était. Et puis il y avait aussi le fait que les Américains n'étaient pas encore, il me semble, entrés en guerre contre l'Axe. En fin de compte, le gouvernement essayait de faire plaisir aux Juifs, pensant que les Juifs étaient influents, c'était encore un stéréotype, avaient de l'argent, étaient influents, et donc c'était comme ça que les banquiers juifs pourraient influencer, enfin bon, que le lobby juif, disons, que ça soit surtout aux États-Unis, soit favorable à l'entrée en guerre des Américains. Donc, ils pensaient vraiment que les Juifs étaient tout à fait pour le sionisme, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
Alors, c'est bientôt la fin. Il y a CLB. Je vais donner la parole à CLB. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est toi? Tu as posé une question sur le chat. Tu as dit que tu pouvais la redire et après, peut-être qu'Olivier conclura. Vas-y, mets le son. Le son. Voilà.
Voilà, je l'ai mis. Alors attends, je retrouve mon fichier. Alors, je disais, beaucoup d'entre vous formulent leur judéité depuis une communauté de mémoire où l'histoire, avec ou sans H majuscule, est forcément fortement intriquée à celle du génocide des Juifs d'Europe. J'avoue que pour moi, en tant que judéo-arabe, cette histoire est justement de celles qui m'ont été assignées, même si je la partage d'une certaine manière avec la suspension de la loi Crémieux. Mon père juif algérien, non-croyant, m'a plutôt transmis un savoir sur le racisme en France, par la loi Crémieux justement, qui fait savoir que la France peut retirer ce qu'elle donne, et le silence sur l'histoire de notre famille, qui a été complètement induite par l'assimilation, puisqu'il était perçu comme arabe, très visiblement non blanc, et avec un nom bien juif. Alors je voulais savoir ce que je pouvais faire de ça dans une lecture immatérialiste de la judéité, et comment réfléchir à l'inscrire, ou si je devais réfléchir plutôt à l'inscrire dans un continuum des rapports de domination induits par le racisme. Elle est âpre, ma question.
À toi, Olivier.
Ouais, je pense que c'est pour toi.
Il y a deux petites questions. Il y avait une sur la notion de peuple-classe, et puis
Oui, il y a
celle-là,
aussi, oui.
d'énormes questions.
Ouais, non.
Et voilà. La notion de peuple-classe, elle cherche à rendre compte de ce qui a provoqué en partie l'antisémitisme à travers les rôles professionnels auxquels ont été assignés les Juifs à cause de l'oppression au Moyen-Âge et ensuite. Elle est un peu réductrice parce qu'elle fait comme si la quasi-totalité ou la majeure partie des Juifs étaient dans ces fonctions de commerce et de banque, etc. Alors que de toute l'histoire, l'immense majorité des Juifs étaient dans des catégories pauvres et laborieuses, etc., dans productrices, etc., certes privées de tout un tas de droits comme le droit de propriété, etc. Et donc, elle rend plus compte, pour moi, je veux dire là, attention, peut-être on a plein de désaccords entre nous, mais elle rend plus compte de la perception des Juifs que de leur réalité. Et donc, pour moi, c'est pas une analyse, bien que je sois très proche de ces courants, etc., c'est pas réellement une analyse matérialiste de la réalité des Juifs, c'est une analyse qui cherche, en fait, à plaquer un schéma matérialiste d'explication de l'antisémitisme, mais qui s'arrête à une étape avant de comprendre que ça n'est qu'une représentation et que ça n'est pas la réalité de ce qu'étaient les Juifs. Sur ta question, il y a effectivement une grosse, enfin, il y a un gros travail à faire sur les identités judéo-arabes ou arabo-juives, etc. Je veux dire, il y a tout un travail là-dessus et il y a une domination ashkénaze dans le discours sur la judéité qui est assez grande. Là, dans une approche matérialiste, il n'y a pas d'incompatibilité à subir plusieurs formes de racisation. Donc, je veux dire, il y a toute une partie des judéo-arabes qui sont d'abord et prima facie discriminés, racisés comme arabes avant de l'être comme juifs, parce que ça peut être des stigmates, entre guillemets, plus apparents, des stigmates sociaux plus apparents. Et après, voilà, enfin, pour moi, la fin dans ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord, en fait. L'ensemble de ça doit être inscrit dans une continuité de la domination raciale et de la question de la blanchité, en fait. Je veux dire, c'est la blanchité qui a fait du juif un être opprimé et des maghrébins et de l'Afrique, etc., des dominés, etc., sous des formes qui sont différentes et dont on voit aujourd'hui comment les unes sont instrumentalisées contre les autres. Et pour les judéo-arabes, c'est deux parties de vous-même qui sont instrumentalisées l'une contre l'autre. Donc c'est encore. Vous avez, à mon avis, une place assez centrale dans le combat contre cette opposition, contre l'instrumentalisation à des fins islamophobes de l'antisémitisme, etc. Parce que vous êtes au croisement de tout ça. Donc. Que des figures émergent intellectuelles, militantes, et politiques, etc. Je crois que c'est une des meilleures réponses, aux divisions et aux oppositions, que l'idéologie dominante essaye d'imposer.
Il y a les livres d'Ariella Azoulay, il y a tout un courant, hein,
Ouais, je l'ai lu.
justement. Hein. Il y
Je
a
l'ai
la
lu.
Shoah,
Par contre,
enfin, là, tu as de la matière à réflexion dans
ouais, j'ai
ce
de la
mouvement-là
matière.
de la
Par contre,
Shoah.
pour le début de la réponse, j'ai pas du tout parlé de trucs de fric et de classe. Pas du tout.
Non, c'est pas
Non, non,
toi,
mais
c'est
c'était une autre question.
Ah,
C'était une
pardon.
autre question.
En chat, tu dis qu'il n'avait rien à voir avec la tienne, mais c'était une autre définition de ce qu'avait été la judéité dans son rôle social historique. C'était de le considérer comme un peuple classe, pour éviter à la fois sa définition purement nationale, etc. Et je pense que c'était bien d'en dire deux mots, mais ce n'était pas par rapport à toi. Pardon si j'ai donné cette impression.
Non, c'était Abraham Léon et c'était une autre question dans le chat. Ben, je crois que c'est bien de tenir les horaires. Et puis, je pense que c'était passionnant. J'espère que ça vous a intéressé toutes et tous. Et que ce que vous retiendrez, c'est que la judéité est polysémique. Et ben, en fait, d'où on parle, on peut changer la définition. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée.
Merci
Bonne
beaucoup.
nuit.
Alors, si on peut dire que la prochaine,
Oui.
si on peut préannoncer la prochaine.
Oui, je ne sais pas s'il a répondu, Gérard, mais si c'est
Ouais.
possible, si. Faut que je lui redemande moi. Alors, Gérard Haddad, qui vient d'écrire un livre sur l'archéologie du sionisme, qui est assez passionnant, on voudrait le faire intervenir à la prochaine session, juste avant les vacances de Noël. Donc, on vous
Voilà.
prévient dès qu'on a la date.
On va la
Voilà.
fixer avec lui, mais lui souhaitait faire une présentation
Oui.
pour l'UFP entre nous.
Oui.
Et on a trouvé que c'était une très bonne idée. Et du coup, on s'est dit que plutôt que de proposer un truc à Paris ou qui serait réservé aux gens qui sont autour, eh ben, on transformerait une de nos sessions. Ça changera un peu de forme. Mais du coup, n'hésitez pas aussi si vous avez des idées pour des prochaines sessions. Nous, on en a plein, hein, mais si vous avez vous aussi des demandes ou des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir parce que c'est quand même plus intéressant que ça corresponde à des propositions et à des demandes de tout le monde.
Et merci à toutes et à
Merci.
tous. Au revoir.
Merci.
Au revoir.